parti pour un dimanche de campagne, l'émission qui fait le point sur la course à la présidentielle. Au programme, les meetings du week-end et les événements des derniers jours. Nous sommes très précisément à 8 semaines du premier tour avec aujourd'hui le premier grand meeting de Valérie Pécresse.
Je suis cette femme française indomptable.
On verra si elle a su convaincre et trouver sa voix et sa place alors qu'elle est prise en étau entre le centre et l'extrême droite. À gauche, nouveau meeting de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à Montpellier. Pour le reste, rien de vraiment nouveau cette semaine, du moins en surface, car en coulisses, il y aurait bien eu un début de tractation entre Yannick Jadot et Christiane Taubira, c'est ce que nous verrons. Au programme jusqu'à 19h, la semaine politique de Cyril Lacarrière, avec entre autres l'annonce par Emmanuel Macron de la reprise du programme nucléaire.
Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France.
Au programme également les bobineaux de Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Ce soir, vous reviendrez sur le sort des candidats communistes à la présidentielle sous la Ve République.
Si vous voulez suivre mes conseils, vous ne voterez ni pour Pompidou, ni pour Poher.
Voilà, ça c'est Jacques Duclos, c'était en 1969. Au programme également, au like citoyen avec Jean Massier. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Vous surveillez comme toujours les réseaux sociaux. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, également un confrère et une consoeur de la presse écrite. Bonsoir David Revaud-Dallonne.
Bonsoir.
Chef du service politique du JDD. Vous avez décroché une interview de Valérie Pécresse, dont on va parler dans un instant. Eh ben oui. Bonsoir Sophie Dravinel.
Bonsoir.
Journaliste au service politique du Figaro, où vous suivez la gauche. Merci aussi à Cyril Lacarrière, le rédacteur en chef de cette émission, à Stéphanie Texier, notre réalisatrice, et à Thomas Langlin, qui est à la technique ce soir.
Un dimanche de campagne. Claire Servagen sur France Inter.
Et pour commencer, priorité à l'actualité la plus fraîche, à savoir le premier grand meeting de campagne de Valérie Pécresse qui promet une nouvelle France à ses partisans et qui a des arguments à faire valoir.
Je suis née un 14 juillet, ce jour de fête nationale où la France se rassemble et célèbre en même temps la prise de la Bastille et la fête de la Fédération. Depuis l'enfance, la France coule dans mes veines. La France des bals populaires, des feux d'artifice et du Tour de France.
Un meeting pour tenter de relancer la machine alors que la candidate de droite joue sa place pour le second tour. Valérie Pécresse cernée de toutes parts, sur sa gauche par Emmanuel Macron, qui continue de séduire une partie des LR. Cette semaine, c'est le député Éric Woerth qui a apporté son soutien au président. Éric Woerth qui se défend d'être un traître.
Le mot traître est jamais très agréable et je pense ne pas en être un. Je pense que l'intérêt du pays est d'avoir un président expérimenté, rodé, capable de réformer. Si c'était pas le cas, je ne l'aurais pas soutenu. Je pense que c'est le cas.
Valérie Pécresse cernée sur sa gauche et sur sa droite par Éric Zemmour qui rêve de faire céder les digues. Rien de tel pour cela que de l'attaquer sur le thème « elle n'est pas de droite ». C'est ce qu'il a fait hier en meeting à Saulieu en Côte d'Or.
Avec Valérie Pécresse, vous n'aurez pas Zemmour. Vous n'aurez même pas une moitié de Zemmour. C'est pour cela, mes amis, que je veux m'adresser aux républicains lucides sur Valérie Pécresse et qui disent à voix basse qu'avec elle, non, ce ne sera pas bien, jamais de la vie, mais ce sera tout de même un peu mieux qu'avec Macron. Non, Valérie Pécresse n'est pas de droite.
Voilà, propos recueillis hier par Anne Souhaitemont du service politique de France Inter, qui était aussi cet après-midi au meeting de Valérie Pécresse. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Plus de 7000 personnes pour écouter Valérie Pécresse. Est-ce que la démonstration de force de ce point de vue-là est réussie ?
Alors oui, hein, c'était même un peu le chaos pour les organisateurs. Beaucoup de monde ici au Zénith à Paris, beaucoup de jeunes qui ont crié, interrompu la candidate avec des t-shirts Valérie Présidente. Il a même fallu ouvrir, Claire, une deuxième salle juste à côté au Cabaret Sauvage où des centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer ont suivi le discours de la candidate. Donc sur la fréquentation, un succès. Sur la mise en scène aussi, Valérie Pécresse est apparue seule sur scène. C'était une première, ça marquait donc un tournant avec des prompteurs de chaque côté. Elle avait aussi un nouveau pupitre, un nouveau logo, V comme Victoire et comme Valérie, donc démonstration de force réussie pour ce premier gros meeting, un hic peut-être, une banderole a été déroulée qui dénonçait le supposé islamo-droitisme de la candidate, hein, c'est un peu la signature d'Éric Zemmour, en tout cas il attaque beaucoup là-dessus, mais ça n'a pas été très grave, les personnes ont vite été évacuées, le meeting n'a pas été perturbé.
Et que dire, Anne, du discours sur le fond et sur la forme ?
Alors, ça a plutôt mal commencé, il faut le dire. On a senti une Valérie Pécresse très tendue. On sait que les discours, ça n'est pas vraiment son fort. Elle a pas vraiment réussi à rebondir sur les encouragements ou les réactions du public. Elle a déroulé, elle a lu son discours, un discours long, très long, beaucoup plus long que prévu, pendant lequel elle a repris les accents de sa campagne du congrès de la primaire, très à droite. Elle a commencé par parler de la France, sa France. Marianne ne porte pas le voile. Elle a parlé sécurité, immigration, sans expulsion possible, pas de visa. Elle l'avait déjà beaucoup dit à l'automne. La candidate a aussi parlé de grand remplacement et par là validé ce concept qu'on a beaucoup entendu à l'extrême droite. Donc voilà, le tout de manière assez mécanique, pas très naturelle. Et puis, il y a eu ce moment confession à la fin que j'ai trouvé intéressant. Réussi, je ne sais pas. On sentait la difficulté pour Valérie Pécresse de se dévoiler, mais c'était un moment fort, plus fort que le reste du discours. D'ailleurs, le public était beaucoup plus silencieux. Elle y a parlé de ses grands-parents, de son père, psychiatre, qui lui a appris, dit-elle, à respecter la fragilité qui existe en chacun de nous. Une déclaration d'amour aussi à ses enfants, à son mari, qui était là. Elle a aussi abordé ses difficultés de femme dans la politique, des humiliations, comme l'échec, par exemple, à avoir des postes, car elle était enceinte. Valérie Pécresse a donc un peu fondu l'armure, mais pas trop. Certaines choses m'appartiennent, a-t-elle insisté. Et ça, c'est une manière de se différencier de Marine Le Pen, qui s'est prêtée un petit peu au même exercice le week-end dernier, mais qui, elle, était allée beaucoup plus loin.
Voilà. Alors, et du côté du public, Anne, est-ce qu'elle a été conquis ou pas?
Alors, vous savez comment c'est clair, dans ces moments, dans les meetings, il y a beaucoup d'élus, beaucoup de militants, donc qui sont un peu par définition très conquis. Alors, on m'a dit, oui, on a vu la vraie Valérie Pécresse, elle a fendu l'armure, on l'attendait, mais il faut quand même que je vous raconte cet échange rapide que j'ai eu tout à la fin avec une porte-parole de Valérie Pécresse, Florence Portelier, à qui j'ai demandé, alors, est-ce que ça va suffire à relancer cette campagne? Et là, elle a réussi, écoutez, en tout cas, elle a répondu, en tout cas, ce meeting, il n'a pas été raté. Et ça, je trouve que ça en dit long sur la peur qu'avait l'équipe Pécresse par rapport à ce grand rendez-vous de dimanche.
Merci mille fois, Anne Souhaitemont, pour toutes ces informations avec Lucien Lefebvre à la technique. Alors, on va évidemment commenter ce meeting. On va commencer peut-être avec vous, David Revaud-Allonne, chef du service politique du journal Le Dimanche. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce meeting?
Écoutez, moi, je vais peut-être un peu casser l'ambiance d'entrée de jeu, pardonnez-moi, mais je trouve qu'il y a quand même un espèce de cliché permanent à chaque campagne présidentielle et sur chaque candidat qui consiste à dire, attention, c'est le meeting décisif, c'est l'acquis tout double, le meeting de la mort. Si jamais il ou elle se trompe, se plante dans son discours, tout est raté, etc.
On dit surtout que c'est le premier là, parce que oui, c'est quand même ça le.
Certes, mais souvenez-vous qu'à chaque campagne présidentielle et concernant chaque candidat, il y a eu exactement la même problématique, et qu'en réalité, ça a valu pour Sarkozy 14 janvier 2007, ça a valu pour Hollande Villepin de janvier 2012, ça a valu pour Ségolène Royal, j'en passe.
Il y a toujours un meeting qui marche, mais un meeting raté ne cloue pas.
Mais certainement, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a toujours mis une pression folle sur les candidats ou les candidates, et en réalité, personne n'a jamais raté ce type de meeting. Alors, est-ce qu'elle l'a raté aujourd'hui? Moi, je suis assez d'accord, sans reprendre la com de l'équipe Pécresse, mais avec ce que dit Madame Portelli, oui, ce meeting n'était pas raté. Il est, comme l'a dit votre reporter sur place, la mobilisation était bonne, l'ambiance était plutôt réussie, le discours sur le fond était, voilà, elle a coché toutes les cases. C'était peut-être pas le discours du siècle, l'entrée en campagne de Sarko 2007 ou le meeting de Hollande, le fameux « Mon ennemi, c'est la finance », parce qu'il n'y a pas une punchline, une phrase politique extrêmement forte qui va en ressortir, mais en tout cas, elle n'a pas raté. C'est vrai qu'il y a un petit souci de forme, très clairement, il y a un petit souci d'éloquence, d'art oratoire qui était déjà patent et qui n'est pas réglé, mais voilà, je pense pas que ce soit, pas du tout que ce soit rédhibitoire pour poursuivre dans sa campagne vers l'Élysée. Elle est pas mauvaise en débat, elle va le montrer, c'est aussi un exercice important. Moi, je crois que le problème, il est ailleurs. Il est, vous l'avez dit, dans votre lancement, voilà, elle est cernée de toutes parts, elle est sur une équation quasiment impossible, et d'ailleurs, ça se voit, cette semaine l'a démontré chaque jour, presque à chaque heure, entre les ralliements des uns et des autres, à Macron, des responsables LR, et les sondages, rappelons que dans le Rolling IFOP de vendredi, Zemmour et Pécresse sont exactement au même niveau, à 15, donc est-ce que ça ouvre, finalement, pour les jours qui viennent, le spectre ou la perspective d'un retournement, d'un croisement des courbes? Je crois que c'est ça la vraie problématique aujourd'hui.
À qui a-t-elle parlé en priorité ce soir?
C'est son problème, c'est que, vous l'avez dit, encore une fois, elle commence avec le grand remplacement, elle fait sienne, elle reprend à son compte.
À droite toute, là, au début.
À droite toute, etc. Elle fustige, elle tape Macron dans les grandes largeurs, bon, c'est normal. Et à la fin, elle finit en tapant sur les extrémistes, sur Marine Le Pen, sur sur Zemmour qu'elle ne cite pas, mais c'est ça, en gros, c'est la France du repli ou du déclin, donc elle ne sait pas vraiment où elle habite, ce qui est normal. C'est cette équation impossible sur le plan politique, sur le plan stratégique, qui finalement découle de sa primaire et du fait que, voilà, elle doit faire le grand écart entre la droite modérée d'Édouard Philippe, grosso modo, et la droite dure d'Éric Ciotti.
Qu'est-ce qu'on peut dire à Thomas Legrand de sa vision de la France, du Tour de France du 14 juillet, de tout ça?
Non mais ma France, la France, la France nouvelle ou la nouvelle France. Et d'abord, nouvelle, c'est un adjectif qui ne dit pas grand-chose, qui dit simplement que c'est pas la France de d'Emmanuel Macron et qui dit aussi vis-à-vis de tous ceux qui sont nostalgiques de l'ancienne France, et la nostalgie est très présente dans cette campagne, qu'elle ne s'inscrit pas dans cet axe. Mais ça nous dit pas quelle France. Et c'est vrai que si on reprend les discours de Sarkozy en 2007 ou de François Hollande, alors ils étaient dans des situations plus faciles. Hein. Sarkozy, c'était à la fin d'une génération. Il faisait sauter une génération. C'était la fin de Chirac qu'il appelait d'ailleurs le roi fainéant. Et donc, il y avait cette énergie. Et puis, on retient le petit Français de s'en mêler, le travailler plus pour gagner plus. Il y avait quelque chose. Et je pense que son talent oratoire était meilleur. Et il y avait cette énergie. Je suis d'accord avec Renaud sur l'histoire.
David.
Revaud d'Alonne, voilà. David sur l'histoire de la forme. C'était pas un bon discours sur la forme. Mais peu importe. D'ailleurs, si... Et heureusement que peu importe, parce que c'est pas la forme d'un discours qui compte. Hein.
Sinon Jean-Luc Mélenchon, qui est un excellent orateur, aura gagné toutes les présidentielles.
Mais qu'est-ce qu'on va en retenir de ce meeting?
Pour l'instant, on va pas en retenir grand-chose. On va en retenir qu'elle est un peu coincée, comme vous l'avez dit. Et puis, vous disiez, elle a coché toutes les cases. Moi, je trouve qu'elle a enfoncé toutes les portes ouvertes et elle a été dans le poncif. Enfin, ça a été vraiment, je veux que la France des Outre-mer rayonne sur tous les océans, la France chère à mon cœur, l'écologie.
Un pavé charolais arrosé d'un bon vin, c'est ça la France.
Oui, bah, ça c'est contre les voix qu'elle est contre. C'est vrai,
oui,
mais
voilà, c'est une
l'écologie est une solution, pas une punition. Tous ces, c'est des slogans qu'on entend beaucoup. Il y a rien de nouveau à elle et surtout, ça ne dit pas ce qu'est sa France. Et donc voilà, on n'a pas de vision et de vision. Et je pense que les électeurs de droite modérés qui ont écouté ce discours, ça ne les empêchera pas de voter Macron. Les électeurs de droite un peu radicales qui ont écouté ce discours, ça les dissuadera pas de voter Zemmour.
Sophie Dravinel.
Et je pense qu'il y a beaucoup de cadres à gauche et d'ailleurs aussi de militants, de sympathisants qui ont regardé ce discours cet après-midi. Peut-être en passant de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs qui s'exprimait juste avant depuis Montpellier, puisque les télévisions retransmettaient de meeting, et d'écouter Valérie Pécresse et de se dire, mais est-ce qu'enfin en France on va avoir de nouveau une opposition, un rapport droite-gauche qui s'équilibre? Ils le regardent avec attention en se disant, mais même certains se sont dit, si on ne vote pas Emmanuel Macron, on pourrait voter Valérie Pécresse. En tout cas, à gauche, chez les sociodémocrates, je l'entends chez les cadres.
Ça, c'est des votes stratégiques. Ça ne représente pas grand monde, mais c'est vrai que se dire que Valérie Pécresse puisse être au second tour pourrait être peut-être
pour reconstituer cette opposition.
Droite-gauche qui serait peut-être plus saine.
Oui, parce que c'est plus facile de s'opposer à Valérie Pécresse que de s'opposer à Emmanuel Macron.
Alors n'allez pas trop vite en besogne, parce qu'on n'a pas fini de parler du contenu du meeting. David Revaud d'Alonne, il y avait la grande question Nicolas Sarkozy, puisque vous le rappelez très bien dans le journal du dimanche aujourd'hui, elle y est allée vendredi et elle attend toujours ce soutien. Elle a fait quoi là ce soir? Un petit geste? Elle a dit Nicolas Sarkozy, son audace, sa vision, elle en a parlé, il fallait bien le faire.
Oui, mais c'était quand même un petit peu le minimum syndical qui montre que là encore, finalement, de la même manière qu'elle est coincée sur l'échiquier politique en général, entre son centre droit, son centre avec Emmanuel Macron et sa droite dure avec Éric Zemmour, elle est un petit peu coincée sur l'échiquier de la droite, entre son mentor, son véritable parrain en politique Jacques Chirac, et celui qu'il est toujours un petit peu aujourd'hui et sans qui rien ne peut se faire sans encombre. Donc elle a fait le minimum syndical. Je peux vous raconter une petite anecdote.
On aimerait bien que vous nous racontiez ce qu'elle vous a dit, surtout à propos de rendez-vous avec lui.
Et nous avons fait l'interview pour le journal du dimanche vendredi matin à 9h, et à 11h, il se trouve qu'elle avait rendez-vous dans le bureau de Nicolas Sarkozy. Et dans une semaine qui était quand même une semaine horribilis, entre les départs de plusieurs figures, à commencer par Éric Woerth pour Macron, entre effectivement la perspective du sondage que j'évoquais tout à l'heure, qui est arrivé vendredi et qui met Zemmour et Pécresse au même niveau, c'était quand même pas formidable. Et on avait le sentiment que cette interview qui était importante pour elle, parce que c'était une interview de teasing de son discours du dimanche et qu'elle n'avait pas parlé depuis quelques jours, on avait le sentiment que le vrai moment important de la matinée, c'était bien sûr les quelques minutes qu'elle allait passer plus tard.
Elle a
avait un peu la tête ailleurs, c'est ça?
Oui, c'était pas très long. Elle avait la tête ailleurs, même si elle a fait l'interview, elle a fait le job, etc. D'ailleurs, il y avait quelques très bonnes punchlines qu'elle n'a pas reprises. Elle a dit « Je suis la femme à abattre ». C'est d'ailleurs là-dessus que nous avons titré cette interview, parce qu'effectivement, on sentait qu'en cette fin de semaine, et ça s'est confirmé dans le discours de Zemmour que vous avez diffusé un extrait à l'instant, là, c'était feu sur le quartier général de la candidate de toutes parts, entre les débauches orchestrées par les macronistes et puis bien sûr les charges extrêmement virulentes de Zemmour. Pourquoi ? Parce que Macron comme Zemmour savent pertinemment, c'est un peu triste, mais savent pertinemment que bien, les quelques parts de marché nécessaires pour remonter, pour se stabiliser encore plus pour Macron et pour espérer arriver au deuxième tour pour Zemmour, eh bien, c'est sur les électeurs potentiels de Pécresse. Il y a, estime-t-il, 1, 2, 3% à gratter. Et vous avez vu que Zemmour, hier, dans son discours, s'est consacré quasi exclusivement à démonter le caractère droitier de Pécresse, en expliquant, on l'a entendu dans l'extrait de tout à l'heure, elle n'est pas du tout de droite, c'est Macron en moins bien, voilà. Enfin, en pareil.
Avec toujours l'idée de faire céder ses digues. Quel est l'état des troupes, David Revaud-Allonne, derrière Valérie Pécresse? En interne, on sait que d'avoir un parti soudé, c'est une des clés de la réussite. Est-ce qu'il y a des doutes en interne? On a vu qu'il y a Éric Woerth qui est parti,
je vais vous dire.
Bouchard, mais pour le reste, ils y sont ou ils y sont pas?
Alors, officiellement, évidemment, ils y sont encore. Ils font quand même assaut de loyauté et de dynamisme dans cette campagne, en expliquant que rien n'est joué. Sur le papier, c'est vrai, il reste un petit peu moins de 2 mois, donc tout peut se jouer. Mais il y a un signe qui ne trompe pas, pardonnez-moi. Vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, mais en politique, les hommes politiques, les femmes politiques sont d'excellents anémomètres. Ils sentent parfaitement le sens du vent et volent bien souvent au secours de la victoire. Mais quand celle-ci commence à être certaine, ou du moins plus que probable. Là, ce qui est inquiétant pour Valérie Pécresse, c'est que vous avez des gens qui partent chez Zemmour, enfin, une personne, en l'occurrence, Guillaume Pelletier, c'est peut-être moins représentatif, mais surtout des sarkozistes, Woerth, Nora Béra,
Natacha Bouchard,
maire de Calais, et quelques autres un peu moins connus, qui passent avec armes et bagages chez Macron, avant même que le vent électoral ait tourné, que le vent des sondages ait véritablement tourné. Si vous voulez, si on avait une Pécresse à 12 et un Macron à 27, ça justifierait. Mais là, la campagne, quand même, n'est pas vraiment commencée puisque Macron n'y est pas encore. Et les gens partent déjà avec armes et bagages chez Macron. Je trouve ça extrêmement inquiétant. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas.
Alors, Valérie Pécresse, en tout cas, elle a décidé de ne rien négliger. Elle a même décidé de se lancer dans la grande aventure du podcast. C'est notre rubrique « Au like, citoyen ». Jean Massier, bonsoir.
Jean.
Vous êtes plongé dedans.
Et oui, bien sûr, depuis un mois, vous pouvez, si vous le voulez, avoir Valérie Pécresse dans vos oreilles chaque semaine. Valérie raconte Pécresse, c'est le nom de ce podcast de campagne. Et pour le coup, il n'y a pas tromperie sur la marchandise, puisque dans chaque épisode, vous n'entendrez rien d'autre que Valérie Pécresse qui raconte Valérie Pécresse. On écoute, par exemple, raconter ses souvenirs dans les camps de jeunesse soviétiques où elle était allée quand elle était jeune pour apprendre le russe.
Et donc, j'ai pu voir la transformation de l'URSS. Et j'ai vécu cette expérience unique d'être là au moment de la transition, au moment du passage de la perestroïka, et de voir se libérer petit à petit les républiques. Mais je savais, quand j'ai été en Union soviétique, dans les années 80, qu'un jour le mur de Berlin tomberait, qu'un jour il se passerait quelque chose, que ça ne pourrait pas durer longtemps, et que le décalage entre ce que j'avais vu en Union soviétique et ce que je voyais à l'Ouest, entre deux univers totalement différents, ne pourrait pas durer.
Voilà, Valérie Pécresse a vu, elle a pressenti la chute du mur de Berlin. Moi, ce podcast, je l'attendais de pied ferme, et c'est pour une raison très simple. Les Républicains ne sont pas très connus pour la fraîcheur de leur communication numérique. On est très loin de l'époque de 2007, où les tonitruants jeunes populaires soutenaient Nicolas Sarkozy à grand renfort de blogs, de tweets et de chansons virales. Rappelez-vous, il y a 12 ans, la droite, c'était aussi ça. Voilà, une chanson virale et surtout un clip avec plein de jeunes du parti qui chantent et qui dansent avec les ténors de ce parti, comme par exemple Rachida Dati, Jean-Pierre Raffarin, Valérie Pécresse ou encore, ça vous fait rire, Éric Woerth et Christine Lagarde. Depuis cette époque-là, petit à petit, la communication de la droite a vieilli, elle a fané. En 2012, il fallait soutenir Nicolas Sarkozy, président sortant et surtout président fatigué. La campagne a été courte, elle s'est déroulée dans une ambiance de fin de règne assez tendue, un climat pas franchement propice à à l'innovation numérique et à sa légèreté. C'était pas beaucoup mieux il y a 5 ans. La candidature de l'austère François Fillon n'a pas brillé par ses innovations numériques. Pas simple, là encore, d'être audacieux quand la campagne est plombée par les affaires. Cette année, Valérie Pécresse cherche donc à enrayer l'image poussiéreuse de son parti et à renouer avec le dynamisme.
Alors dites-nous, ce podcast, comment vous le trouvez ?
Eh bien moi, je le trouve plutôt pas mal. Elle s'en sort assez bien. L'équipe de campagne de Valérie Pécresse tient là un outil qui peut permettre de renforcer l'adhésion des sympathisants en présentant une candidate très humain. Valérie Pécresse réussit à se confier sans tomber non plus dans l'épanchement des goulinants. Elle fait passer des messages politiques, bien entendu, mais sans faire du racolage grossier. Par exemple, lorsqu'elle vante les mérites des femmes qui l'ont entourée dans sa vie, elle nous fait doucement comprendre qu'une femme présidente de la République, ce serait pas mal, et surtout si c'est elle. Bref, ce podcast reste un outil de communication politique, il faut surtout pas l'oublier. Mais il réussit à ne pas tomber dans la lourdeur habituelle de la communication politique. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Merci beaucoup Jean Massier. Je sais pas, une réaction peut-être sur ce genre de produit. Alors nous, on va pas dire que c'est mal les podcasts puisqu'on fait de la radio, mais quelle peut être l'utilité
que ça diffuse,
Sophie de Ravinel.
Jean-Luc Mélenchon avait été un peu précurseur pour utiliser ces outils de communication personnalisés de campagne venant de chez eux. Et là, évidemment, le podcast, on pense à des podcasts célèbres menés par des femmes qui ont pu lancer cet outil. Et effectivement, je pense que ça peut être quelque chose de fin et de délicat pour réussir à dire des choses, et surtout pour elle, puisqu'on avait vu l'émission avec Karine Le Marchand qui n'avait pas été très, sur l'identité de chacune des candidates. Il y avait eu Anne Hidalgo, ça n'avait pas très bien marché non plus. Marine Le Pen avait fait un peu un carton là-dedans. Et c'est vrai que là, Valérie Pécresse, elle a besoin de progresser. Et je pense qu'effectivement, cet outil-là peut être adapté pour elle.
C'est vrai que ça, votre chronique a l'avantage de rappeler ce qu'on avait totalement oublié, c'est que l'UMP a perdu son avantage concurrentiel, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a Mélenchon qui est très fort sur ce type d'outil, on a aussi Macron qui n'est pas mauvais, et nouveauté...
Enfin, Macron quand il sera en campagne, hein, on verra.
Quand il sera en campagne, mais enfin, on sait que les petites pastilles, si les petites formules, et d'ailleurs, là, ils réfléchissent pour la candidature à un format de ce type-là. Et puis, il y en a un nouveau venu qui est aussi assez bon sur ce type de choses, c'est bien sûr Éric Zemmour.
Éric Zemmour qui, pour le coup, lui, il est soutenu par une armée d'internautes, ce qui n'est pas le cas de Pécresse. Et donc ça, c'est un avantage comparatif énorme pour Zemmour, comme pour Mélenchon, beaucoup d'internautes qui soutiennent à grand renfort de tweets et de prises de parole.
Et ça, évidemment, c'est pas négligeable. Un tout dernier mot sur Valérie Pécresse, et ensuite, on va passer à la semaine politique de Cyril Lacarrière, David Revel-Allen. Vous avez visité le QG de Valérie Pécresse, alors en deux mots, à quoi ça ressemble ?
En deux mots, je m'attendais plutôt à y trouver Anne Hidalgo dans ce QG. C'est plutôt... vous savez, c'est
l'ancien... C'est bobo ?
C'est extrêmement bobo. C'est très joli, c'est QG, moi j'ai été très favorablement impressionné, c'est un très bel endroit.
C'est un QG de gauche, c'est ce que vous me dites ?
Ça ressemble à un QG plutôt bobo, je ne sais pas de gauche.
Industrialo, parisien.
Ouais, ça ressemble pas à la droite RPR classique ou UMP ou même LR, on attendait quelque chose de plus sobre. Là, j'attendais plutôt un Jadot ou une Hidalgo. C'est d'ailleurs l'ancien QG de, rappelez-moi, c'est une...
Cyril, la carrière.
Andémol, voilà, c'est ça. Elle a un petit peu arrangé les choses, elle a fait un coin snacking, un coin...
C'est une ambiance start-up, c'est ça?
Voilà, c'est une ambiance très start-up. Non, en fait, j'aurais plutôt, effectivement, non, vous avez raison, plutôt y trouver le QG d'Emmanuel Macron.
Il est 18h33.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
Et c'est donc l'heure de la semaine politique de Cyril Lacarrière. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Claire.
À 56 jours du premier tour, quels sont les derniers échos de cette campagne ?
Le vent souffle sur la présidentielle française et cette semaine, il y avait dans l'air comme une odeur d'hydrogène.
Pour augmenter la production électrique nationale d'ici 2050, il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France.
6 nouveaux EPR, des études pour 8 supplémentaires. Emmanuel Macron avait le nucléaire en poupe jeudi à Belfort. La France reprend bel et bien sa grande aventure du nucléaire.
L'aventure commence à l'aurore, et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin.
Comme un air de campagne dans les objectifs du chef de l'État, consommer moins, développer les énergies renouvelables et donc investir dans l'énergie nucléaire, un choix critiqué par l'écologiste Yannick Jadot.
Le président de la République est en train d'enfermer la France pour un siècle, jusqu'à la fin de ce siècle, dans le nucléaire.
Cette semaine, le vent de la campagne nous a fait entendre une petite musique qui devient entêtante.
Nous avons 400 et quelques parrainages, il n'en demande pas moins qu'il nous en manque 100, et que c'est un problème démocratique majeur. C'est extrêmement grave, ce sont les millions d'électeurs français qui devraient s'élever contre cette situation.
Et oui, la question des parrainages continue d'agiter les prétendants à l'Élysée. Marine Le Pen, on l'a entendu, est inquiète. Dans le décompte officiel du Conseil constitutionnel, elle a moins de signatures que Jean Lassalle. Le député des Pyrénées-Atlantiques est bien parti pour participer à sa deuxième campagne présidentielle d'affilée. Mais le suspense demeure pour des candidats pourtant hauts dans les sondages. Figurez-vous qu'ils ont peut-être trouvé un sauveur en la personne de François Bayrou.
L'idée que je propose, c'est que des maires se regroupent et s'il manque des signatures, nous sommes prêts, regroupés que nous sommes, sans soutien politique, à nous répartir entre nous les signatures nécessaires.
De banque de parrainage ?
Oui, c'est une banque de parrainage démocratique.
Mais attention, la proposition du président du Modem n'est pas ouverte à tout le monde. Il faut dépasser les 10% des intentions de vote pour ouvrir un compte dans cette banque démocratique. Alors ce n'est pas le cas de Nathalie Arthaud, mais peu lui importe. La candidate de lutte ouvrière devrait être sur la ligne de départ de cette présidentielle, tout en conservant un statut un peu à part.
Donc je travaillais encore la semaine dernière. Donc j'ai dit au revoir à mes élèves la semaine dernière et je leur ai dit au 11 avril. À moins que je sois élu, mais ça, je pense que ça signifierait quand même qu'il se passe pas mal de choses dans la société.
Le vent de la campagne nous a fait entendre les klaxons d'un convoi, le convoi de la liberté. Ses opposants aux restrictions sanitaires s'inspirent du mouvement Néo-Canada. Voici ce qu'on peut entendre parmi les participants. C'était mercredi soir sur LCI.
On veut garder notre liberté, on veut pas. Petit à petit, ils vont nous amener un crédit social. Crédit social, c'est tout. On va être tous pucés, comme en Chine. Et ben, pour nous enlever nos libertés, ça s'appelle le transhumanisme. On va plus être des humains, on va être des bêtes, là, sur Terre.
Côté Macronie, on parle d'un convoi de la honte et de l'égoïsme. À l'extrême gauche, en revanche, on est partagé sur le sujet. Par exemple, le NPA est favorable à la vaccination, mais Philippe Poutou se dit que ce convoi pourrait être l'occasion d'agréger les luttes.
Nous, on espère en tout cas que c'est un rebond du mouvement des Gilets jaunes, parce qu'on sait que rien n'a été réglé, la colère est toujours là, les inégalités sociales, le pouvoir d'achat, ça en parle beaucoup aujourd'hui.
Le vent de la campagne nous a également fait entendre les remous qui agitent la campagne de Valérie Pécresse. On en a parlé en début d'émission, mais impossible de dresser le bilan de la semaine sans cette sortie de Rachida Dati. La maire du 7e arrondissement de Paris avait sorti la sulfateuse contre Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse.
J'ai pas de leçon à recevoir de Monsieur Stefanini, pour plusieurs raisons. D'abord, faut arrêter avec la légende qu'il a fait gagner des candidats. Il a jamais fait gagner Jacques Chirac. Moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir de M. Stefanini, donc il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons.
J'adore respirer l'odeur du napalm le matin.
Chaud d'ambiance, donc, chez les Républicains. On comprend que Valérie Pécresse ait l'impression d'être dans Star Wars. On n'a pas le son, me dit-on.
On est quand même.
Eh bien écoutez, c'est pas grave, il n'y a pas le son. Mais là, il n'y a pas Cresse qui faisait une énumération des personnages de Star Wars et qui m'amenait à vous citer un certain Shurikane. Ne vois-tu pas dans ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée, pourquoi vouloir lui résister? Sans peine, je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'hôte dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur.
Oh, merci beaucoup Cyril Lacarrière. Beaucoup de choses dans cette semaine politique. Je voudrais peut-être qu'on s'arrête un instant sur les fameux convois dits de la liberté, comme on a un spécialiste des réseaux sociaux avec nous, Jean Massier. C'est vrai
ça
que... Et puis surtout, ça nous interpelle, c'est parti du Canada, une semaine après, c'est ici, c'est en Nouvelle-Zélande, c'est partout.
Ça déjà, c'est un élément intéressant, le mimétisme. Les Gilets jaunes, c'était une production française, hein. C'était Cocorico, c'était Yakaounou qui avait inventé ça, le jaune fluo, c'était pas un truc inspiré de l'étranger. Le convoi de la liberté, c'est canadien. C'est eux qui l'ont inventé, et là, il y a une imitation claire, assumée d'ailleurs par les participants de ce convoi, et je trouve ça intéressant, il y a une espèce d'archipélisation mondiale des luttes qui, comme ça, se miment entre des pays. Pour ce qui est des réseaux sociaux, le convoi de la liberté fait vraiment débat parce que on n'est plus au moment des gilets jaunes avec l'aspect nouveauté. Il y a quand même eu 2 ans depuis de Covid avec tout un complotisme, des mouvements anti-vax qui mettent en garde contre la vaccination. Et donc ce convoi de la liberté, on sent qu'il crée des débats chez les internautes entre certains qui seraient tentés de soutenir une mobilisation de colère contre Macron parce qu'ils n'aiment pas Emmanuel Macron, mais qui en même temps disent attendez, ce convoi là, non, c'est pas notre truc, notamment à gauche. Les militants insoumis, par exemple, sont pas tous raccord avec le chef sur ce point-là. Jean-Luc Mélenchon soutient assez franchement le convoi de la liberté. Il l'a dit à plusieurs reprises, c'est lieutenant lui aussi. Mais sur Twitter, beaucoup de militants insoumis disent « Bah là, non, je suis désolé, c'est pas notre combat. Nous, on est pour la vaccination. On n'est pas pour la liberté individuelle, etc. »
Sophie de Ravinel, vous confirmez ?
Oui, absolument. Il y a une espèce de dichotomie, mais surtout, il y a ce dont vous parliez, c'est-à-dire cette expérience des gilets jaunes préalables qui les a conduits à une certaine prudence. dans la considération de ces mouvements qui peuvent partir un peu dans tous les sens. Ils ont regretté chez les Insoumis, d'ailleurs ailleurs au sein de la gauche radicale, et même chez les socialistes. J'en parlais avec Didier Lebray qui vient de sortir un livre là sur les doléances et sur le fait qu'il faille rendre les cahiers de doléances aux Français. Et lui-même disait, mais les Gilets jaunes, on ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus. Ils sont partis peut-être dans les droites nationalistes ou dans l'extrême droite, mais on aurait dû les entendre. Peut-être qu'il y a cette petite musique de dire, bon, quand même, il y a... et on l'entend aussi chez certains écologistes, Corinne Lepage, qui, pour ne pas être anti-vax, ne veut pas non plus nier à ces personnes-là le droit d'aspirer à des libertés. Et c'est ces libertés-là qu'ils veulent prendre en considération. Et évidemment, en campagne présidentielle, on a un électorat, et un électorat important, qu'il ne faut pas négliger.
Sujet sensible, David Revaud-Allonne, on ne plaisante pas avec ça.
Moi, je pense qu'il y avait une alerte incendie extrêmement forte du point de vue de Macron et de l'exécutif. Pourquoi ? Parce que en général, à 2 mois d'un premier tour, on n'a pas de mouvements sociaux. Enfin, c'est quand même extrêmement rare. Donc là, on avait quand même une sérieuse alerte. Et puis surtout, c'était quand même les deux pires cauchemars du quinquennat d'Emmanuel Macron qui convergeaient en colonne automobile vers la capitale, en l'occurrence.
Les Gilets jaunes.
Les Gilets jaunes, puisqu'il y avait une revendication de pouvoir d'achat et on a vu qu'ils étaient quand même assez nombreux hier. Et puis deux, les anti-vax, les plus radicaux, puisque la revendication numéro 2, c'était le pass vaccinal. Donc on avait eu un combo entre ces deux formes de l'anti-macronisme le plus radical et le plus éruptif possible. Je pense qu'il y avait, vous avez raison, hein, je pense qu'il y a eu un défaut d'appréciation. Enfin, et les macronistes se sont complètement trompés au début du mouvement des Gilets jaunes. Je me souviens moi-même avoir eu un rendez-vous avec Alexis Kohler à quelques jours du premier rassemblement, la première marche des Gilets jaunes.
Qui est un des
Alexis Kohler, le secrétaire général, le numéro 1 de l'administration présidentielle d'Emmanuel Macron. Et qui nous a dit, non, on leur a dit les Français sur la question de pouvoir d'achat, sur la taxe carbone sont à cran. Il nous a dit non, c'est une dissonance cognitive. Donc ça veut bien dire que du point de vue de la Macronie...
On aime ce mot, la dissonance cognitive.
Voilà, il y avait une absence totale de compréhension de la situation. Là, on en était très loin. Là, je crois qu'à 2 mois du premier tour, avant, à quelques jours, la déclaration de candidature officielle du président, dont personne ne doute, il marchait un petit peu sur les charbons ardents. Bon, voilà, au vu des chiffres...
Ils sont partis à Bruxelles, mais on ne sait pas très bien ce que ça va donner.
Mais je pense qu'au vu des chiffres généraux, il y a eu quelques échauffourées, etc. Mais je pense que la tendance est plutôt à être rassurée. Mais attention, parce que souvenez-vous que les Gilets jaunes, ils sont revenus chaque semaine, il y a eu des éruptions.
Il faudrait surtout pas...
Il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour...
Voilà.
En fait, pas tous en même temps. Allez, Sophie de Ravinel.
Juste un petit mot, l'alerte, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un mort. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un drame, et il ne faudrait pas que ce soit monté en épingle, parce qu'il suffit d'un drame comme il y a pu y avoir sur des ZAD pour que ça puisse dérouiller, que ça puisse repartir en vrille, et donc je pense que c'est ça dont il se méfie beaucoup.
D'ailleurs, hier, pendant quelques heures,
on
a cru qu'il y avait eu un mort, puisque quelqu'un avait été évacué sur une civière. Finalement, heureusement, ça n'a pas été le cas.
Et est-ce que la meilleure nouvelle pour l'exécutif en ce moment, c'est pas surtout que l'épidémie est en recul, et que les bonnes nouvelles sont annoncées les unes après les autres?
Bien sûr.
Du coup, il y a concertation dans l'éducation nationale, etc.
C'est la fin des gestes barrières, peut-être, Thomas, pour le printemps.
Oui, mais en même temps, il y a d'autres potentiels.
La menace, celle du pouvoir d'achat, et c'est-à-dire de d'autres, les sujets de la campagne, les vrais sujets de la campagne qui pourraient remonter et qui ont été jusqu'ici assez frustrés justement par cette occupation du terrain par le Covid et par les questions sanitaires.
Et puis deux épées de Damoclès, de type international. Un, évidemment, l'Ukraine. Vous avez vu que...
On va en parler.
Voilà, les rumeurs d'invasion potentielle se multiplient. Donc, au vu du déplacement de Macron à Moscou la semaine dernière, évidemment, on ne manquera pas, les opposants ne manqueront pas, et candidats rivaux ne manqueront pas de lui présenter l'addition. Et puis deux, il y a quand même le Mali, sujet un peu moins en vue, mais là encore, la situation est extrêmement explosive.
Et si d'aventure, touche au terrorisme.
Voilà, touche au terrorisme. Si d'aventure des soldats français étaient encore tués, je rappelle qu'on en a eu quasiment 60 jusqu'ici, que les Russes sont en train de s'implanter de plus en plus, et qu'il y a une crise diplomatique extrêmement tendue entre le Mali et la France. Donc là encore, deuxième sujet d'inquiétude. Il y a 3 mois, j'aurais acheté, si j'étais macroniste, votre proposition, c'est-à-dire la situation sanitaire s'éclaircit, je vais candidater. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Avec la situation internationale. Jean, vous vouliez rajouter quelque chose?
Il y a une trouille de tout le camp politique de passer à côté du nouveau mouvement des Gilets jaunes. Vous l'avez dit, la Macronie a un peu raté son début du mouvement des Gilets jaunes, mais tout le monde a raté son début du mouvement des Gilets jaunes. On se souvient de Laurent Wauquiez qui ne savait pas très bien quoi faire. Il avait mis un gilet jaune.
Absolument.
Avant que ça lui soit franchement reproché quand ça a commencé à partir en violence.
Quand la préfecture du Puy-en-Velay a été incendiée par les émeutiers.
Absolument. Donc, ça a fait tache sur son mandat à la tête des Républicains. On a vu aussi à gauche le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon, qui au début encore savait pas très bien quoi en faire avant de franchement y aller en disant oui c'est notre mouvement, voire même un peu le récupérer. Il y a cette peur de passer à côté du mouvement.
Sauf peut-être les droites nationalistes qui ont su au moment profiter un peu.
Oui, avec beaucoup de discrétion. Voilà. Marine Le Pen, elle a su se maintenir à distance.
Mais agir.
Agir quand même.
Alors un mouvement insaisissable. On est d'accord là-dessus. Je voudrais qu'on dise un mot de la gauche. Il y avait cet après-midi le dernier meeting de Jean-Luc Mélenchon à Montpellier. On l'a entendu dans le journal de 18h. Anne Hidalgo, elle est aux Antilles. Christiane Taubira, elle était en meeting à Créteil hier où elle a poussé la chansonnette.
Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines. Celle de 36 à 68 chandelles.
Épaté, hein, Jean Massier, vous aviez raté ça sur vos réseaux sociaux. Hein. Jean Ferrat, voilà. Alors, Sophie Narvinel, petite question. Christiane Taubira continue d'appeler au rassemblement à gauche, mais avec qui on sait qu'il y a eu des rencontres entre son équipe et celle de Yannick Jadot, qu'est-ce qu'on en sait exactement?
Alors on n'en sait pas grand-chose, voire on n'en sait quasiment rien, parce qu'en fait chacun y va de son intox, de son information. Chacun, entre nous, des journalistes, prétend avoir l'info qui va bien, celle qui va casser toutes les autres, mais en fait personne ne sait exactement ce qui se passe. Est-ce que les intéressés le savent eux-mêmes? Je n'en suis même pas sûre. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement cette rencontre il y a le dimanche, il y a une dizaine de jours, et avec cet objectif qui était de faire discuter les écologistes avec Christiane Taubira, avec son camp, qui est aussi celui du Parti radical de gauche, qui est une source de soutien, non pas tant financier que d'élus. Et en fait, est-ce qu'ils ont vraiment voulu, certains me disent, notamment chez Place Publique, qui est un des petits satellites avec Raphaël Glucksmann à sa tête, oui, en fait, il y avait vraiment un objectif de ralliement, mais comme c'est sorti dans la presse, c'était impossible, ça n'a pas pu se faire. Chez les écologistes, David Cormand, qui est le mentor un peu de Julien Bayou, si je peux me permettre ce lien, disons, qui est son prédécesseur et qui est aussi député européen, et qui me disait, mais absolument pas, moi ce que je dis chez les écologistes, c'est ne mettons pas le quart de doigt d'un ongle de doigt dans ces discutailleries, surtout avec des gens qui prétendent faire de la politique autrement. Et lui affirme, mais je vous assure, de toute façon, ce ne sont pas des additions, et ça ne servirait à rien d'avoir Christiane Taubira avec nous, ce qui compte, c'est une dynamique. Et cette dynamique, ce ne sont pas des additions qui peuvent la produire. Alors, est-ce que en même temps, les socialistes regardent ça? Et eux, de leur côté, ils se disent, mais enfin, nous, on aimerait quand même beaucoup ne pas taper, arrêter que notre candidate, Anne Hidalgo, arrête de taper sur Christiane Taubira, parce que ces 200 000 électeurs, ceux de la primaire populaire qui ont voté pour elle, on aimerait quand même les avoir. Peut-être que ça nous permettrait de monter jusque 5%, qui est le rêve, le graal des socialistes, et on peut quand même s'en désoler pour eux. Et donc, en fait, tout le monde, en ce moment, est en train de marcher sur des œufs. Personne ne sait exactement où il va. Et la vérité, la seule qui vaille, ce sont les législatives, c'est-à-dire évidemment l'après-présidentielle.
Enfin, n'allons pas trop vite en besogne quand même. On va, Jean-Luc Mélenchon, de son côté, lui, son souci, ce serait évidemment de grappiller des points et de se qualifier éventuellement pour le second tour. Il est gêné par Fabien Roussel. Voilà qui nous amène au bobino de Thomas Legrand. Thomas, ce soir, vous vous intéressez au sort des candidatures communistes depuis le début de la 5e.
Oui, et il n'y a pas toujours eu des communistes à l'élection présidentielle. Ça dépendait du rapport de force. Et dans les années 60-70, c'était l'URSS qui décidait. En 65, par exemple, Moscou ne voulait pas gêner le général de Gaulle. Donc sur 10 scrutins, les communistes n'ont été présents que 6 fois. Il y a eu 3 périodes, la puissance, le déclin et la marginalisation. La première fois, donc c'était en 69, Jacques Duclos, ancien ouvrier pâtissier du Sud-Ouest, à la fois petit soldat discipliné du communisme et un élu affable à l'accent rocailleux et chaleureux. Il a fait 21% au premier tour en 69, donc, et il a refusé de choisir entre Pompidou et Poher au second tour.
La bourgeoisie de notre pays, qui ne met jamais tous ses œufs dans le même panier, présente en somme deux candidats qui sont des cousins germains, si ce n'est des frères siamois, Monsieur Pompidou et Monsieur Poher. Si vous voulez suivre mes conseils, vous ne voterez ni pour Pompidou ni pour Poher.
Voilà, c'est le fameux blanc bonnet et bonnet blanc. 1981, l'ineffable Georges Marchais, l'ancêtre des polarisateurs de plateau, bretteur populaire, fait 15% au premier tour et espérait que François Mitterrand ne gagne pas au second tour. Hein, Moscou ne le voulait pas. Et il savait aussi que ce serait le début de la fin du PC. Mais bon, il ne pouvait quand même pas le dire comme ça.
Nous sommes prêts à assumer au gouvernement toutes nos responsabilités pour que soit mise en œuvre la politique nouvelle de plein emploi, de justice et de progrès social, de développement national, d'essor des libertés, d'initiative en faveur de la paix, de la solution de tous les grands problèmes du monde politique dont le pays a besoin.
Alors j'ai choisi cet extrait pour que les plus vieux d'entre nous se souviennent social national. Bah c'est vous, oui. Vous et moi. Social national.
Bah, moi aussi je vous rassure.
Ça faisait le bonheur social et national des imitateurs. Ce fut le début du déclin. Avant même la chute du mur en 1988, André Lajoigny.
Ça ne va pas mal pour tout le monde, car en même temps où il y a toutes ces injustices, jamais les plus riches n'ont autant gaspillé d'argent. Jamais il y a eu autant de spéculation financière qui brade le patrimoine de la France.
Voilà, et puis il y a eu, c'est vrai, Monsieur Juquin, j'ai oublié son prénom.
Pierre
Juquin, voilà, qui était
ministre rénovateur.
Rénovateur, dissident. Voilà, et pour cette réélection en 88, réélection triomphale de François Mitterrand, André Lajoigny a fait 6,76. Petit rebond pour Robert Rue en 1995 avec 8,35. Première élection post-monde soviétique.
La remontée du Parti communiste constitue un événement majeur, et c'est la remontée sur la base d'une politique de protestation, de proposition pour changer les choses. Ce résultat est aussi un encouragement à continuer la rénovation de notre parti.
Voilà, Robert Rue poursuivra donc sa politique de rénovation du PC, enfin libéré de la tutelle de Moscou, et se représentera en 2002, qui marquera le début de la marginalisation, 3,37. Et puis 2007, Marie-Georges Buffet. Alors là, on sent vraiment que le PC n'a plus la pêche.
Pour beaucoup, la vie est très dure. Pour la jeunesse, trouver un travail, une bonne formation, c'est le parcours du combattant. La droite tente de précariser à vie tous les salariés. Le droit à la retraite, au logement, à la santé. Ces droits fondamentaux sont dans le viseur de Sarkozy et de son frère jumeau Bayrou. Ils veulent construire une société du profit où l'humain ne compte plus.
Voilà, 1,93 score, la quasi-disparition du PC au niveau national. On sent bien, en l'écoutant, que Fabien Roussel veut tenter de retrouver la gouaille offensive, l'énergie populaire de l'époque du clos marché.
Voilà, Fabien Roussel qui a un peu ressuscité le Parti communiste, Sophie Drevenel.
Absolument, en tout cas, qui lui donne un tonus absolument fou. Moi, j'ai été, enfin, absolument fou, relativement à ce que ça peut être dans ce cadre-là de la gauche.
Nous n'emballons pas.
Non, mais eux s'emballent un peu. Et peut-être qu'ils rêvent de refaire un score à la Robert Russe pour se libérer de la tutelle de
Jean-Luc. Pour dépasser le PS, surtout.
Absolument. Mais se libérer de la tutelle de Jean-Luc Mélenchon étant un signe de libération. J'étais à Marseille il y a 8 jours à la même heure avec le meeting de Fabien Roussel dans cette ville emblématique, hein. C'est là où Georges Marchais avait justement fait ses plus gros scores en 81. C'est là où Jean-Luc Mélenchon a fait son plus gros score en 2017 avec Montpellier. Et donc c'est une ville emblématique et on voyait le Parti communiste là-bas, dans cette ville ouvrière de migration, etc. Ils sentent, ils veulent quelque chose. En même temps, il n'y a pas énormément de drapeaux rouges non plus. Il y a une tentative de drapeau français pour faire un peu comme Jean-Luc Mélenchon, nationalisé, de mettre un peu le Parti communiste de côté pour être dans une campagne en fait souverainiste. Parce que Fabien Roussel est le candidat souverainiste de cette élection. Il se revendique comme tel, il y a une part de marché, il pourrait bien la récupérer.
Alors j'ai quand même envie de vous entendre sur la question des parrainages, parce qu'il y a beaucoup de monde à gauche, est-ce que tout le monde va pouvoir y aller? Il y a la proposition de François Bayrou, David Revault-Lalonde, qu'est-ce qu'il faut en penser de ce geste pour ceux qui, a priori, sont au-dessus de 10% dans les sondages?
Sur le fond, je pense que la proposition de François Bayrou, elle va plutôt dans le bon sens, dans le sens d'un accès, voilà, d'un accès de tous, de tous les candidats au suffrage universel. C'est le principe de la démocratie. Après, c'est quand même du bricolage, il faut le dire. Je pense qu'il y a un problème je pense qu'il est tout à fait naturel qu'il y ait un filtre, puisque sinon, n'importe quel hurluberlu pourrait se présenter au suffrage des Français pour la présidentielle. Je crois que c'est pas le cas. On a déjà beaucoup de candidats. On a déjà une grosse dispersion, je pense que c'est pas la peine d'en avoir davantage. Maintenant, je trouve, quoi qu'on pense des positions des uns et des autres, je trouve anormal qu'une candidate comme Marine Le Pen, qui fait aujourd'hui quelques de 16, 17, 18% dans les sondages, soit en difficulté. Je sais bien qu'il y a eu dans la famille Le Pen toute une tradition de chantage affectif qui consiste à dire qu'on nous bloque, même si Jean-Marie Le Pen en 80 n'a pas eu ses signatures, il faut le rappeler. Mais après, c'était devenu une stratégie de victimisation, hein, que d'ailleurs Madame Le Pen utilise encore aujourd'hui. Sur le principe, quoi qu'on pense du caractère démocratique de la formation de Madame Le Pen, je pense que c'est pas normal qu'elle n'ait pas ses signatures aujourd'hui.
Elle en petit est à bémol, 274.
Petit bémol, il faut aussi signifier que Madame Hidalgo, il y a quelques semaines, souvenez-vous, rappelez-vous, avait dit Zemmour et Le Pen n'ont pas leur signature, Mélenchon non plus, c'est normal, ils ne le méritent pas. Je trouve cette phrase extrêmement déplacée. Madame Hidalgo n'a
ses signatures. Ça lui avait été reproché.
Oui, Madame Hidalgo n'a ses signatures, pardon, que parce que le PS dispose d'un réseau d'élus. C'est vrai, vous allez me dire que Marine Le Pen aurait pu gagner des élections régionales et avoir des élus.
Évidemment que pour une élection présidentielle, ça serait dramatique démocratiquement que Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon ne puissent pas se présenter. Juste d'un point de vue simplement analytique, ça montre bien à quel point maintenant on est sur deux niveaux, deux débats dans ce pays. Il y a un débat local où, s'il y avait des élections municipales demain, le PS et LR remporteraient encore, et les écologistes avec le PS remporteraient encore la plupart des villes, sans doute.
Ça a d'ailleurs été le cas.
Comme la dernière fois. Et il y a un niveau national avec La République En Marche, et puis le Front National et la France Insoumise. Donc c'est deux niveaux.
Il va falloir réfléchir au système.
Laurent Fabius, le
président du Conseil constitutionnel, a dit qu'il faudra s'en occuper, mais plutôt au début de...
Ça signe la désaffiliation et
mandat suivant.
La désaffiliation et la dépolitisation de notre vie politique.
Jean, en deux mots, après, ça passionne les internautes. C'est
un sujet qui passionne les internautes. Je passe mon temps à répondre à beaucoup de questions sur ce système des parrainages.
Ça interpelle beaucoup.
Notamment les jeunes essayent de comprendre, mais c'est quoi ce truc, raconte-nous. Donc je passe beaucoup de temps à leur raconter, ça intéresse énormément.
On sait qu'il y a un complot en plus derrière.
Oui, il y a un peu de ça.
Les amis, il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table et que vous nous disiez chacun ce qu'il va falloir surveiller dans la semaine qui vient. On attend évidemment toujours la déclaration de candidature du chef de l'État, mais qui fait déjà comme s'il était réélu, puisqu'il est allé à Belfort annoncer la suite du programme nucléaire. A priori, c'est qu'il a envie de se représenter. Sophie de Ravinel, pour vous, qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les jours qui viennent?
Eh bien, je ne cesse de surveiller François Hollande. Nous attendons tous de savoir ce qu'il va dire, puisqu'il avait dit qu'il parlerait début février, et puis après, on nous a dit mi-février. Alors maintenant, on me dit non, ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais en fait, peut-être quand même la semaine prochaine.
En tout cas, je crois.
Absolument, peut-être après les législatives. Je crois que ce que tout le monde attend, c'est une voix au PS qui puisse permettre de redonner un peu de souffle.
Thomas, pour vous, qu'est-ce qu'il faut surveiller?
Ce que j'attends, c'est mardi matin, Fabien Roussel, on en parlait, sera l'invité de France Inter dans le grand format jusqu'à 9h30. Un peu de pub.
Parfait, vous vendez bien votre
corporate.
Votre matinale. Jean, qu'est-ce que...
Christiane Taubira, je me demande si elle va continuer cette campagne de cette manière-là. Je me demande si les tractations avec Jadot ne vont pas aboutir à quelque chose.
Elle a promis aujourd'hui aux Parisiens, dimanche en politique, je ne sais plus dans quelle antenne, qu'elle ira jusqu'au bout.
C'est comme les dévaluations. Ouais. C'est jamais possible juste au jour.
C'est sûr, où ça arrive.
Alors on va surveiller François Hollande, éventuellement Nicolas Sarkozy. Pour vous, David Revaud-Allonne, alors évidemment, l'international va jouer.
Bien sûr,
va jouer un rôle essentiel, vous l'avez dit
La déclaration d'Emmanuel Macron, qui, comme François Hollande, est décalée de semaine en semaine, et en ce moment, bien sûr, à cause de la Russie, l'Ukraine et du Mali. Mais surtout, pardonnez-moi, je suis un petit peu monomaniaque, j'en reviens à mon idée de départ. Moi, je vais surveiller de très très près les courbes sondagières de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour en particulier, parce que je pense qu'il va se jouer quelque chose dans les jours et dans les 15 jours qui viennent à ce sujet. Et je pense que à partir du moment en plus où Nicolas Macron, vous voyez le lapsus, Emmanuel Macron est sur le ring, je pense que ça va aller très très vite et que ce scénario est quand même extrêmement dangereux pour la droite classique.
Ça veut dire aller au bout de votre raisonnement que Zemmour pourrait creuser l'écart avec Paris,
mais en tout cas, je prends un pari. Ils sont dans le dernier IFOP, dans le dernier rolling de vendredi IFOP à 15-15. Je pense qu'il est bien possible que Zemmour passe devant cette semaine.
La quatrième.
Et ça créerait une dynamique.
Vous imaginez bien que l'histoire que nous allons raconter, le commentaire de la campagne que nous allons faire à partir de ce moment-là n'est plus le même. Parce que si Zemmour passe devant Pécresse, l'étape suivante, qu'est-ce que c'est? C'est est-ce que Zemmour va passer devant Le Pen et être au deuxième tour? Et ça change absolument tout le scénario. Bien sûr, soyons prudents, c'est de la spéculation, mais surveillons.
Ne nous emballons pas, Jean Massier, du côté des réseaux sociaux. Vous allez surveiller, vous aussi, ça de très près. Vous nous ferez signe. C'est terminé pour un dimanche de campagne. On se retrouve la semaine prochaine.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous?
Tous les Français.
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République,
vive la liberté,
vive l'écologie.
Et surtout, surtout,